Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Vous l'aurez constaté, les trottoirs sont devenus de véritables parcours du combattant pour nous tous, mais aussi et surtout pour les non-voyants qui doivent composer avec les poteaux, barrières, travaux, vélos et trottinettes garés n'importe où. Heureusement, la start-up française GoSense est là pour leur venir en aide avec son système Rango et sa technologie de réalité augmentée sonore. Hugues de Chaumont, son président, nous la présente aujourd'hui dans Check-up santé. Je suis bien passé pour le savoir, les études de médecine sont passionnantes, dont le but est sacré, celui d'aider son prochain. Mais ces études sont longues, difficiles, exigeantes, prenantes, responsabilisantes à l'extrême, pouvant hélas conduire à des situations de stress majeur, voire des suicides. Son fonctionnement actuel en est-il responsable ou certains de leurs acteurs? Nous le serons avec Gaëtan Gazanova, président de l'ISNI, intersyndical national des internes en médecine, et le professeur Jean Sibilia, rhumatologue et doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Check-up santé, la seule émission santé réellement augmentée. C'est parti. Hugues de Chaumont, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors, vous présidez la société GoSense, que vous avez cofondée avec François Pirot. Il fallait le citer quand même.
Oui, bien sûr.
Alors, vous êtes passé par EM Lyon, qui est une école de commerce. Comment passe-t-on d'une école de commerce de EM Lyon à la santé, au domaine de la santé?
Tout simplement avec une vraie envie d'entreprendre et surtout vouloir faire quelque chose qui a du sens, avoir un impact positif sur nos utilisateurs et dans la société.
Et dans les grandes écoles, on dit que la santé, c'est un gros créneau dans le sens entrepreneuriat du terme ou pas, non?
Oui, alors l'EM Lyon a un master spécialisé notamment sur la santé et la pharma, donc effectivement, on nous en parle.
Alors, vous avez fondé donc GoSense en 2015, hein,
c'est ça.
Oui. Et vous êtes basé
à Lyon.
En France, à Lyon.
À Lyon.
Et vous vous occupez évidemment de. Je l'ai parlé dans l'introduction, donc des non-voyants. Il y a à peu près combien de non-voyants en France et en Europe?
Alors, en France, on a à peu près 2 millions de personnes malvoyantes et 220 000 personnes aveugles. Et en Union européenne et Amérique du Nord, on a 4 millions environ de personnes aveugles et 24 millions de personnes malvoyantes.
Donc c'est un énorme marché, même si on voudrait qu'il y ait moins de non-voyants. Mais vous vous intéressez plus aux non-voyants qu'aux malvoyants pour le moment ou pas ?
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Parce que notre principal produit est Rango. Et c'est un produit justement qu'on fixe sur une canne blanche et qui alerte des obstacles l'utilisateur.
Alors justement, je disais en introduction, hein, les rues, pas de Paris, mais les rues en général, surtout dans les grandes villes, sont vraiment plus sûres.
Oui. Bon, en ce moment, on les pratique pas beaucoup. Et depuis 2 ans, on a vécu des confinements successifs et on a pu mesurer à quel point c'est difficile de rester chez soi et de pas pouvoir sortir de chez soi. Et à quel point, finalement, c'est essentiel de pouvoir sortir de chez soi pour justement avoir une vie sociale, aller travailler. Et donc, effectivement, les villes aujourd'hui sont très accidentogènes pour les personnes aveugles et elles ont peur de sortir de chez elles.
Alors justement, donc vous utilisez donc les nouvelles technologies hein, pour permettre aux non-voyants de se déplacer en toute sécurité. Quelle technologie? On parle d'augmentation de sensorielle?
Oui, alors on a la particularité chez GoSense, c'est qu'on travaille autour du son 3D ou autrement dit de la réalité augmentée sonore. Donc on met en son l'environnement de nos utilisateurs. Et donc, on va utiliser un sens qui est très développé chez nos utilisateurs, l'ouïe, pour se substituer au sens qui fait défaut, la vue.
Et donc, alors, justement, donc ça s'appelle Rango. Hein.
Voilà, Rango.
C'est un boîtier. Ouais. Un boîtier, on le voit ici sur le plateau. Donc, c'est un boîtier qui peut s'adapter à n'importe quelle canne blanche.
Oui, c'est ça. Il y a une accroche en U qui est universelle, qui permet de vraiment se fixer à tout type de poignée de canne blanche.
D'accord. Et donc, comment ça marche? Ce sont des capteurs, c'est ça?
Alors voilà, on les voit ici. Il y a 3 ronds. Ce sont des capteurs à ultrasons, donc Rango, en fait.
Ah oui, donc il faut mettre la canne dans le bon sens.
Voilà,
il
faut se mettre en locomotion, de face à soi, et Rango regarde devant nous. Mm-hmm. Et donc, grâce à ces capteurs, en fait, Rango donc, est doté de capteurs à ultrasons qui ont de l'intelligence et qui sont vraiment révolutionnaires et qui permettent de comprendre les déplacements de l'utilisateur, mais aussi de comprendre l'environnement de l'utilisateur.
Et là, sous forme de réponse sonore, c'est ça, d'alerte sonore.
Alors voilà, Rango, c'est un petit boîtier qui est très léger, qui pèse moins du poids d'un smartphone, pardon. Donc qui est plus léger qu'un smartphone et qui va, grâce à ses algorithmes, détecter la présence d'obstacles. La particularité, c'est que Rango va analyser les déplacements de l'utilisateur et il va calculer des risques de collision avec des obstacles qui sont sur la trajectoire. Donc tous les obstacles...
Jusqu'à quelle distance ?
Jusqu'à 2,50 m.
Ah oui, c'est quand même beaucoup.
Ouais. C'est suffisant. Mm-hmm. Ça permet justement d'être à l'aise dans son déplacement et d'être prévenu suffisamment à l'avance, mais pas trop, pour pas avoir trop de retours sonores à l'utilisateur. Et donc du coup, en fin de compte, l'utilisateur balaye. En pratique, il est dans la rue, il balaye. Et comme toute rue, en fait, on va longer un mur, on va longer des voitures qui sont garées. Et en face de nous, il y aura tout un tas d'obstacles, des poubelles, des vélos, des scooters, des poteaux, des passants. Et donc Rango va sélectionner, et par son intelligence, il va uniquement alerter quand c'est nécessaire, donc quand il y a un risque de collision, donc un danger, donc un obstacle avéré.
Et un ensuite, patient, par exemple, qui marche dans le même sens que vous ?
Alors le passant qui marche dans le même sens, il n'y a pas de risque de collision. Du coup, Rango est suffisamment intelligent et n'alerte pas de la présence de cette personne.
Alors Rango est indissociable de Nour.
Alors voilà, effectivement, une fois que Rango a détecté un obstacle, il est connecté en Bluetooth à une application Rango de GoSense qui est dédiée vraiment à Rango.
Une application mobile standard
qui marche sur iOS, toutes les plateformes, Android. Tous les téléphones spécialisés aussi. Et une fois que Rango a détecté un obstacle, il l'envoie au téléphone, qui lui a des algorithmes qui sont propres aussi à GoSense, qui vont retraiter,
qui sont propriétaires,
et qui vont retraiter l'information de localisation de l'obstacle en trois dimensions, mais cette fois-ci en son. Donc, ce sont des algorithmes de spatialisation sonore qui envoient par le son la position de l'obstacle aux écouteurs.
Donc, le non-voyant est en permanence alerté de ce qui se passe autour de lui, quoi. Alors, surtout devant lui.
L'idée, justement, c'est d'éviter qu'il y ait trop de retours. Ouais. Parce que sinon, beaucoup d'analyse, beaucoup de concentration est difficile à utiliser. Donc là, Rango, il va sélectionner vraiment l'obstacle qui représente un danger. Donc tous les obstacles qu'on longe ou qui passent à côté, ne sont pas alertés par Rango. Donc avec Rango, on a un unique retour clair et précis par le son.
Alors comme retour, justement, est-ce que vous avez un bon retour des utilisateurs ? Je sais que vous en avez distribué à peu près 200.
Oui, 300 utilisateurs aujourd'hui à date.
Oui, 300, oui.
300 utilisateurs, les plus jeunes ont 15 ans. Et les plus âgés ont plus de 80 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Fabien, mais
ce qui veut dire que c'est facile de
oui, tout à fait, voilà,
à l'utilisation.
Ouais, ouais. Très simple d'utilisation. Et ça, c'est notre vraie force.
Et donc, est-ce que vous allez faire évoluer le produit ? Est-ce que vous allez rajouter des fonctionnalités ?
Alors oui, tout à fait. Ouais. Une fois qu'on est en sécurité, on aime bien savoir ce qu'on a autour de soi et avoir des informations aussi d'orientation. Et donc, Rango, comme il est connecté à une application mobile, on peut le faire évoluer par des mises à jour logicielles, comme on met à jour tout à chacun nos applications mobiles. Et Rango se met à jour en Bluetooth. Et là, on peut proposer de nouveaux services. Typiquement, on peut avoir sa localisation, donc savoir la rue et le numéro de rue à laquelle on est. Et ensuite, on peut aussi consulter les horaires de passage de transport en commun. Donc métro, bus, tramway et même les trains régionaux. En France, mais dans le monde entier.
On peut avoir une estimation du prix de
2000 euros.
D'accord. Mais qui est relativement prise en charge, donc, et remboursé par...
Oui, tout à fait, effectivement.
Pas par l'assurance maladie encore.
Pas encore, c'est l'objectif pour fin 2023. Mm-hmm. Le dispositif Rango sera certifié dispositif médical dès cet été, en prévision justement d'un remboursement par l'assurance maladie et d'une prise en charge à 100% si possible. Mais aujourd'hui, déjà, nos utilisateurs peuvent avoir accès via les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH.
Un remboursement
à hauteur de 75% sur dossier.
C'est énorme. Ouais. Vous avez, j'imagine, beaucoup de partenaires avec lesquels vous travaillez.
Oui, bien sûr. Ouais. Des designers, on a aussi nos partenaires financiers, nos banques, nos investisseurs.
Vous avez dû lever des fonds pour...
Ouais, bien sûr, il a fallu...
Plusieurs fois.
Oui, plusieurs fois à la création. Donc c'était une vraie stratégie. Il faut financer l'innovation.
Et donc des financements européens ?
Dont des financements européens, tout à fait. En 2017, on a remporté un programme de recherche européen qui vient d'être primé, là, en ce début d'année 2021, par une étoile de l'Europe.
Eh ben, bravo, Hugues de Chaumont, vraiment bravo pour votre dispositif médical qui va vraiment aider les non-voyants. Merci beaucoup. On va à présent accueillir Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Bonjour Olivier.
Bonjour Fabien.
Alors, ravi de vous accueillir à nouveau dans Check-up Santé pour votre rubrique Pharma. Alors, Olivier, on imagine que la commercialisation des différents vaccins a dû bousculer la hiérarchie des laboratoires. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants?
Alors, effectivement, ça va changer beaucoup de choses. On estime que cette année, on va produire 10 milliards de doses de vaccins anti-Covid. C'est à peu près le double de la dose de tout vaccin réuni, ce que produit l'industrie pharmaceutique chaque année. Vous imaginez qu'effectivement, ça va bousculer les hiérarchies.
Alors, finalement, les premiers gagnants seront aussi les petits.
Les plus petits. Les plus petits, effectivement. Moderna, BioNTech. BioNTech, le petit allemand, va passer brutalement dans la cour des, peut-être pas des grands, mais des moyens. On estime qu'il va réaliser uniquement sur ce vaccin. Ce sont deux laboratoires qui n'avaient jamais eu de médicaments sur le marché, hein. Rien, aucun incroyable produit. Qui ne vivaient que de contrats avec des grands labos. 12 milliards de dollars pour BioNTech, a priori. Donc, il passe de rien à 12 milliards. C'est un changement brutal. L'américain Moderna, lui aussi, c'est à peu près le même chiffre, sauf que Moderna a d'ores et déjà annoncé qu'il allait pousser la technologie du ARN messager et se lancer dans des recherches, notamment sur l'oncologie. Ouais. C'est un laboratoire qui est intéressant parce qu'il est tout petit et il attire des gros cadors de la pharma. Il y a des vraies stars de la pharma qui n'hésitent pas à quitter leur grosse maison pour partir. Et puis, il y a un petit changement dans la vie, c'est marrant, dans la vie du patron de Moderna. On a appris que le labo avait été obligé de dépenser $1 million pour sa sécurité propre à domicile et dans la rue parce qu'il fallait le protéger.
Alors, il y a aussi quelques gros labo qui marque des points.
Oui, le plus gros, c'est évidemment Pfizer, hein, qui va être le grand gagnant de l'histoire. 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires prévu uniquement sur le vaccin en 2021. Et puis plus sûrement, parce que le patron l'a d'ores et déjà annoncé, le prix du vaccin va sérieusement augmenter dès que la crise sera terminée, parce qu'on considère que le vaccin aujourd'hui est vendu à un prix bien inférieur à la moyenne. Pfizer l'a annoncé, l'ARN messager, maintenant, ils vont le faire tout seuls. Ils ont dit, BioNTech, c'est très bien, maintenant, on n'a plus besoin d'eux.
Quelle gratitude.
Un peu comme ouais. ça. C'est un monde cruel, vous savez. Et d'ores et déjà, ils sont en train de recruter une équipe de cinquantaine de chercheurs qui vont pousser les travaux sur l'ARN messager, notamment en oncologie. Ça risque d'être très très impressionnant, effectivement. Et puis il y a un troisième vainqueur, c'est Janssen. On attend son vaccin, on va le savoir.
Donc qui arrive
normalement dans les jours à venir. Ouais. On pense que le produit pourrait faire 2 milliards de dollars. On se rappelle, hein, c'est un vaccin unidose, donc ça sera très intéressant pour tout un tas de pays. On pense qu'avec ce vaccin, le groupe
qui est déjà un très gros labo.
Ah oui, énorme. C'est déjà le premier labo, mais ils font plein d'autres choses. Ils font du medical device. On pense qu'avec le vaccin, J&J pourrait atteindre la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année. Voilà.
Et les perdants, il y en a, non?
Ah oui, le premier, on le connaît, hein. C'est celui qui aurait dû gagner, AstraZeneca. Il faut le dire, c'est un excellent vaccin, mais c'est une communication catastrophique, il faut le répéter. Le produit ne devait pas faire de bénéfice, devait faire un bénéfice dans un second temps, puisque normalement il est vendu à prix coûtant au départ.
Temps, c'est ça,
oui. Oui, sauf que le second temps, on risque de l'attendre longtemps chez AstraZeneca. Il est peu probable que le vaccin ait encore un marché avec les nouveaux qui vont arriver et avec le bruit qu'il y a autour. C'est un vrai échec. C'est vraiment
le produit a été mal vendu. Pour un bon vaccin, surtout.
Un très très bon vaccin. C'est vraiment un mauvais habillage. Voilà.
J'imagine qu'il y a des perdants chez ceux qui n'ont pas de vaccin.
Ah oui, bien sûr. Le premier, c'est Sanofi, bien sûr. On l'attend toujours. Ils vont probablement réussir à renverser la donne, mais d'ici la fin de l'année. Et puis, il y en a un qui a vraiment pris cher, on peut dire. C'est le Suisse Roche, qui lui n'a pas de vaccin, qui... L'essentiel des produits de Roche sont administrés à l'hôpital par les médecins, c'est les produits d'oncologie, logiquement à l'hôpital par les médecins. On comprend qu'ils ont perdu 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année, c'est peut-être le grand perdant de l'année.
Merci beaucoup Olivier.
Merci Fabien.
On va à présent accueillir Gaëtan Casanova, président de l'intersyndicale nationale des étudiants en médecine, et Jean Sibilia, rhumatologue et doyen de la faculté de médecine de Strasbourg.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Gaëtan Casanova, bonjour.
Bonjour.
Jean Sibilia, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean, vous êtes en duplex de Strasbourg.
Absolument.
Gaëtan Casanova, vous êtes un habitué de Check-up Santé. Hein. J'aime bien, moi, prendre le pouls et les idées du futur de notre santé. Vous êtes président de l'ISNI, intersyndicale nationale des internes en médecine. Et vous êtes en réanimation. Hein, vous êtes interne en réanimation.
Oui, c'est ça.
Alors, juste avant de parler du sujet qui nous intéresse, il y a combien d'internes en médecine en France?
Alors, on est environ aux alentours de 30 000. On a une grosse augmentation du numerus clausus pour compenser les départs à la retraite, mais on est dans les alentours de 30 000.
30 000. Et c'était un chiffre plus important qu'avant?
Ça augmente parce qu'on s'est rendu compte que la moyenne d'âge des médecins était très élevée, il y a beaucoup de départs à la retraite, et si on voulait avoir un nombre de médecins suffisant, on allait être obligé d'essayer de compenser en augmentant le numerus clausus. Donc ça a tendance à augmenter.
Jean Sibilia, vous êtes rhumatologue, vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Je parlais des internes en médecine qui représentent le futur de la santé. Je n'ai pas dit que vous représentiez le passé, hein, de la santé, Jean.
Merci Fabien.
Vous êtes passé par là. Qu'est-ce que vous pensez du nombre d'augmentation du nombre d'étudiants et d'internes en médecine? Parce que l'idée, c'est d'avoir aussi le nombre de postes qui va avec.
Bien sûr, je crois qu'il y a une projection d'une augmentation démographique des postes qui est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, le travail de nos internes dans les services, qui est un travail qu'on a harmonisé dans la réforme du cycle, on a besoin de leur laisser du temps de formation, du temps pédagogique. On a besoin d'harmoniser un peu l'organisation de cette formation. Moi, j'y tiens beaucoup et j'y ai vraiment contribué. Il faut vraiment qu'on augmente des effectifs pour avoir des équipes dans les services et notamment pour que les internes aient une marge de manœuvre, d'une formation de qualité supérieure. Donc, il faut augmenter les effectifs pour la formation des internes, mais aussi pour la démographie médicale. Sachant que on y reviendra peut-être, hein, c'est un calcul spéculatif prospectif compliqué. C'est-à-dire que quel est le nombre de médecins dont on aura besoin dans 10 ou 15 ans? Parce que si on ouvre aujourd'hui le robinet du numerus clausus, c'est des étudiants qui seront internes dans quelques années et qui sortiront dans le système de santé dans 10 à 15 ans. Donc il faut être très attentif non plus à bien réguler, à ne pas ouvrir les vannes trop largement.
Il faut toujours aussi que ça soit en rapport avec l'augmentation du nombre de la place de stage. Or, on sait qu'on pourrait trouver des postes dans l'hospitalisation privée. Il y a toujours une petite réticence hein, de la part du public pour justement rajouter ces postes dans le privé. Vous qui avez été surtout le président de la conférence des doyens.
Oui, ça a beaucoup changé.
Que fait la police pour ça?
Oui, ça a été un des objectifs pendant ma présidence, d'augmenter, on a eu un concept qui est assez simple, là aussi Gaëtan connaît parfaitement ça, qui est la formation en territoire. Il faut qu'on arrive à former nos étudiants, nos internes, et même nos étudiants de deuxième cycle, à tous les modes d'exercice, à la fois à l'hôpital, en dehors de l'hôpital, dans les métropoles et à la campagne. C'est la formation territoriale, et on a quand même créé aujourd'hui, je prends l'exemple de Strasbourg, on a 300 maîtres de stage universitaires qui sont des médecins généralistes universitaires qui assurent la formation des étudiants et surtout des internes dans tous les territoires. Moi, je crois vraiment à ça, et on le sait très bien, les prédécesseurs de Gaëtan y avaient travaillé, hein, d'ailleurs, y avaient bien démontré que la formation territoriale, l'ancrage territorial de la formation, c'était un élément déterminant pour maintenir les étudiants dans les territoires, pour qu'ils deviennent un jour les soignants de ces territoires-là, et aussi, clairement, dans le cadre de la formation, pour qu'ils aient une vue de l'ensemble des exercices. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Ça a beaucoup changé, Fabien, depuis quelques années. Aujourd'hui, on a quand même des capacités de formation territoriale hors hôpital qui sont importante. Mais, dernier point, ça pose un problème aux hôpitaux. Vous comprenez bien que, et c'est pour ça qu'il faut aussi augmenter le nombre d'internes, je pense, hein, nos hôpitaux fonctionnent, les internes ont un rôle indiscutable, il faut que les hôpitaux puissent aussi continuer à travailler dans de bonnes conditions et former nos internes dans les meilleures conditions.
Gaëtan, d'autant que la plupart des internes vont après travailler dans le privé.
Oui, ça c'est un chiffre qu'on va publier. Il est déjà disponible, mais on va le mettre en forme et en valeur. 23% des internes désirent rester à l'hôpital public aujourd'hui.
Ça veut dire seulement 23%.
Seulement 23%. Ce qui est très marquant, c'est que lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'on leur demande s'ils connaissent bien l'offre professionnelle dans le public, de toute évidence, ils disent oui, parce que c'est ce qu'ils ont connu majoritairement. Mais lorsqu'on leur demande s'ils connaissent l'offre, les possibilités dans le privé, ils vous répondent non. L'interprétation qu'on a fait, c'est qu'en général, lorsqu'on part massivement d'un endroit sans savoir où on va, en général, on peut assimiler ça à de la fuite.
Très bien. Juste dernière petite chose avant de parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le concours de l'internat, donc il est en perpétuel modification. Jean, perpétuel renouvellement.
Ben c'est un signe de dynamisme hein, ouais. Du système et des doyens. Je le dis avec humour, mais évidemment il faut faire évoluer le système. Le système aujourd'hui évolue vers quelque chose qui est de l'évaluation autant de la connaissance. L'internat, c'était ça finalement. On était interrogé sur des questions traditionnelles de médecine et de chirurgie. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à évaluer évidemment sur le socle de connaissances qui fait notre métier, mais évaluer aussi sur le savoir-être et compétences en fait. Et on en parlait avec Gaëtan, les nouvelles modalités à la fois de formation et d'évaluation que sont les ECOS, hein, qui sont ces examens clinique programmée où on met l'étudiant en face d'une situation très pratique et à la fois on le forme et on l'évalue de cette manière-là, je pense que c'est une très bonne chose. Donc il y a une vraie évolution de formation à la connaissance et à la compétence avec, et moi j'y tenais beaucoup, avec un accompagnement, j'allais dire beaucoup plus personnalisé du cursus de deuxième cycle. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'il y ait un vrai, qu'on arrive à développer un vrai projet professionnel. On a trop connu ça, et là aussi, Gaëtan le confirmera. Moi, j'ai un neveu qui est cardiologue, interne en cardiologie. Il m'a dit, tonton, je ne choisirai ma spécialité que quand j'aurai le classement de mon internat. Donc, il faut pas. Enfin, je crois que c'est pas bien. Il faut qu'on arrive à projeter les étudiants pendant le deuxième cycle, dans un professionnel où ils choisissent non pas leur discipline en fonction de leur classement à l'ancien internat, mais en fonction d'un projet professionnel et les aider à mener ce projet-là. Alors c'est compliqué, je pense que c'est une belle démarche, elle est compliquée, elle va mettre un peu de temps, mais on est rentré là-dedans. Mais il nous faut du temps pour la mettre en place, réforme de deuxième cycle. On l'a peut-être fait à un pas un peu trop accéléré. Elle a des vertus pédagogiques, mais il faut qu'on ait le temps de la mettre en place dans nos facultés. C'est un vrai boulot.
Alors Gaëtan, je disais en intro, je disais que les études de médecine sont fantastiques, elles sont absolument passionnantes, mais c'est vrai que la responsabilisation, les choses ont changé, et des chiffres que vous m'avez fournis sont à peu près hallucinants. Le risque de suicide chez les étudiants en médecine est multiplié par 3 par rapport au reste de la population. Chaque année en France, entre 10 et 20 internes en médecine mettent fin à leur jour. Il y a eu une enquête en 2017. 23% déclarent avoir eu des idées suicidaires. Et pire encore, 4% des médecins déclaraient avoir une tentative de suicide. Oui. Pourquoi ?
Bien, il y a plusieurs explications à ça. Le premier chiffre qu'on doit donner, c'est que depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, on a 5 internes qui ont mis fin à leur jour. Ça fait un suicide d'interne tous les 18 jours. Donc c'est un chiffre qui est extrêmement alarmant. Les raisons, elles sont multiples. Elles sont, et ça, le professeur Sibylla pourra confirmer, elles sont inhérentes d'abord au métier qui est difficile parce qu'il est en lien avec la souffrance humaine. Ça, c'est le premier élément sur lequel on peut pas faire grand-chose. En revanche, il y a des éléments sur lesquels on peut agir et sur lesquels il faut agir. Ces éléments, c'est quoi ? La première chose, c'est les conditions de travail. Lorsque vous travaillez 60 heures, c'est 58 heures en moyenne pour un interne, 70 heures, plus 70 heures en chirurgie, et là maintenant, avec le Covid, on avoisine souvent les 100 heures, il y a une fragilisation évidente due à la charge de travail. Le deuxième élément, qui est aussi un élément très important, c'est celui des violences. L'omerta qui est favorisée par le cumul des pouvoirs, surtout dans les CHU, parce que vous avez des personnes qui sont à la fois enseignants, chercheurs, cliniciens et managers, qui ont quasiment tous les pouvoirs sur votre carrière. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes avec quelqu'un qui est tout à fait charmant, qui vous veut du bien, ça se passe très bien. Mais en revanche, quand ça se passe mal, ça se passe très mal parce que vous n'avez aucune possibilité de fuite.
Jean, c'est peut-être un peu le système qui est un petit peu responsable. Non, peut-être, le système féodal, à l'intérieur de l'hôpital.
Complètement d'accord. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on traite le sujet. Je pense que c'est un sujet très grave. Enfin, je pense qu'il pèse beaucoup sur notre système. Gaëtan a raison de rappeler les chiffres qui sont vraiment très inquiétants. En tout cas, je peux vous dire que pour nous, c'est une vraie inquiétude. Il faut vraiment qu'on traite les choses. Et effectivement, Gaëtan a expliqué que c'est lié à la fois à la conjoncture, en particulier actuelle, bien sûr, dans cette période Covid, qui n'améliore pas le moral des troupes de tout âge, mais il y a une pression du système. Sortir, je dirais deux choses, et en accord complet avec l'analyse de Gaëtan, sans systématiser, bien sûr, la stigmatisation des uns et des autres. Mais clairement, il y a un système qui met aujourd'hui une pression qui n'est pas acceptable. Notamment, je le regrette, mais pour moi, c'est tolérance zéro, à la fois en matière de respect des règles simples de fonctionnement quotidien, c'est-à-dire le repos de garde, c'est-à-dire la quantité de travail, c'est-à-dire l'autorisation de se former dans les demi-journées pédagogiques. Ça doit être respecté, c'est tolérance zéro pour ceux qui ne le respectent pas. Et je pense que la deuxième chose qu'il faut faire, il faut être à l'écoute. Moi, je suis frappé parce que je suis doyen depuis 10 ans, donc j'ai l'occasion de voir ça. Et j'ai avec mes élus étudiants et mes étudiants à Strasbourg une relation, je peux le dire, exceptionnelle, ils pourront le confirmer. Et on arrive à mettre en place, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute et de la détection de la souffrance muette. Moi, c'est ce que Gaëtan pense, mais moi, je suis frappé par des histoires. Heureusement, on a eu la chance d'avoir moins de malheurs à Strasbourg ces dernières années. On en a eu il y a quelques années, mais on a aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute et on doit être capable de donner confiance à nos étudiants, que ce soit nos internes, nos étudiants en médecine, confiance dans le système. Il faut que cette omerta cesse. Il y a trop d'omerta Gaëtan a absolument raison. Moi, je suis frappé par le fait que la parole n'est pas complètement libérée. Et il faut commencer par donner confiance dans l'institution. Le doyen, il est là pour soutenir ses étudiants. Je regrette d'ailleurs, je fais juste un commentaire, Fabien, mais je regrette d'avoir été au centre d'une polémique totalement injuste par rapport à mes valeurs et à ce que je crois et à l'affection que je porte à mes étudiants. Je pense qu'il y a eu un défaut question à un moment donné, mais je voulais témoigner qu'on doit être à l'écoute, on doit casser cette omerta et on doit être dans une tolérance zéro par rapport à toutes ces déviations qui sont de l'ordre du harcèlement. Je pense qu'il faut le traiter ensemble.
Ouais. Jean, réponse courte, c'est spécifique à la France ou c'est la même chose partout ?
Ben non, Gaëtan confirma aussi, hein, on a des données, moi j'ai des données canadiennes dans d'autres pays qui sont quand même des pays avec un niveau d'éducation des métiers de la santé assez élevé, où ils ont un niveau de stress psychosocial très élevé aussi. Donc je pense que c'est le système, hein, très certainement, la pression du système, quel qu'il soit. Alors il est peut-être plus, comme c'était évoqué, plus féodal encore sur certains aspects en France, mais sans stigmatiser les uns et les autres. Mais ça existe dans d'autres pays, et notamment les enquêtes canadiennes montrent des niveaux de stress assez comparables.
Pour finir, Gaëtan, est-ce qu'il faut des commissions indépendantes ? Est-ce qu'il faut des numéros spéciaux que l'interne doit faire quand il a un problème ?
Je pense qu'il faut avoir des modes de fonctionnement simples. Un mode de fonctionnement simple, lorsqu'on parle de violence, c'est d'avoir des commissions indépendantes qui soient capables de l'analyser. C'est très difficile de se confier auprès d'une personne dont vous pouvez suspecter qu'elle est amie avec la personne qui vous veut du mal. Donc pour ça, il faut de l'indépendance. Et l'indépendance, elle doit être réelle et elle doit être affichée. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est simple, c'est le respect de la loi. Juste le respect de la loi, ni plus ni moins.
Merci beaucoup Gaëtan Casanova. Merci beaucoup Jean. J'espère vous revoir sur une prochaine émission, mais sur le plateau.
Avec plaisir. Merci Fabien, merci Gaëtan.
Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.